Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Éthique. Tout de suite, une interview réalisée par Pascal Marcacci.
L'inversion des saisons, la monstruosité du temps, nos ancêtres avaient leur vocabulaire pour désigner les événements météorologiques d'une période pas si lointaine, le petit âge glaciaire, période qui a duré depuis le haut Moyen-Âge jusqu'à la moitié du 19e siècle. Emmanuel Garnier, directeur de recherche au CNRS et historien du climat.
C'est une phase vraiment très très importante, elle a duré plusieurs siècles, sachant qu'elle a été précédée par une période chaude qu'on appelle le petit optimum médiéval, et ensuite la période plus chaude également, que l'on connaît depuis 1850. Entre ce bloc de plusieurs siècles, qu'on a qualifié de petit âge glaciaire en référence à l'avancée des glaciers à l'époque. Ce sont des géologues qui en ont parlé les premiers. On a une offensive en montagne, une descente progressive, parfois assez rapide de ces glaces, qui dans certains cas peuvent balayer des villages, des églises, etc. Alors imaginer de la glace partout serait très exagéré, à altitude moins. Ça se traduisait plutôt par des hivers rigoureux, longs, ce qu'on appelle des vagues de froid aujourd'hui en météorologie, ou encore par des inondations à répétition, avec au bout du compte des catastrophes humaine, à savoir de mauvaises récoltes. Donc le petit âge glaciaire, c'est souvent présenté comme un bloc unique qui débuterait vers 1320, qui se terminerait vers 1850. En réalité, le contenu des archives nous montre que finalement, ce petit âge glaciaire a été aussi caractérisé par des phases totalement contradictoires, dont on parle peu encore aujourd'hui dans le cadre du débat climatique, à savoir la variabilité.
Ce petit âge glaciaire n'a pas été un refroidissement d'un seul bloc. Il a connu des périodes de sécheresse et de chaleur, des variabilités.
Ce qu'on voit à la télé, les forêts brûlent en Californie et dans le même temps, on a une vague de froid en Sibérie. Les gens sont parfois un peu perdus. Eh bien, c'est ce qu'on a pendant le petit âge glaciaire. Le froid domine incontestablement. N'empêche qu'on a vraiment des épisodes très chauds, très très secs, en particulier au début du XVIIIe siècle et au milieu du XVIIe siècle, donc le siècle précédent, avec des conséquences humaines qu'on ne soupçonne pas. On a l'impression aujourd'hui qu'on vit l'essentiel des catastrophes climatiques. Mais en fait, nos ancêtres ont vécu des événements assez similaires avec des conséquences sociales très très importantes. Si l'on prend l'exemple de ces sécheresses du début du XVIIe siècle. À l'époque, on avait accueilli en France plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de musulmans qui avaient été expulsés d'Espagne par le roi. Et ces musulmans ont été accueillis dans un premier temps. Et à cause de l'apparition d'une sécheresse, on a décidé à notre tour de les expulser. Donc là, on a vraiment une corrélation directe entre l'événement climatique extrême, la sécheresse, et la décision de mettre en mouvement des populations. Ce type de migration, on les retrouve aussi en Europe du Nord à l'occasion de submersions. On en a beaucoup parlé en 2010 pour Xynthia. On en a eu une dans les années 1630 qui a d'abord tué plusieurs dizaines de milliers de personnes et ensuite provoquer le déplacement massif de au moins 100, voire 150 000 personnes entre l'Allemagne du Nord et les Pays-Bas actuels, la Hollande.
La politique et le climat. En 1821, le ministère de l'Intérieur demande au préfet quelles sont les modifications climatiques observées dans leur circonscription depuis la Révolution française.
C'est tout à fait logique. On est dans des sociétés qui vivent dans un équilibre très très précaire. C'est-à-dire que la moindre difficulté météorologique peut avoir des conséquences quasi immédiates sur les récoltes. Donc en 1821, quand l'État monarchique, donc la Révolution et l'époque napoléonienne se sont terminées, la monarchie constate avec raison la destruction massive de nos écosystèmes forestiers. On a dû construire des canons, armer des soldats, etc. Donc ça mange énormément de forêts. Et c'est ce qui s'est produit au sortir des guerres napoléoniennes, donc entre 1815 et 1820. Et on constate des dérèglements. À cette époque, les dérèglements les plus évidents, c'est la multiplication des inondations. Et on lit les deux phénomènes. On dit si on a plus d'eau qui coule plus vite qu'avant, c'est parce qu'on n'a plus d'arbres, de forêts qui permettent de contenir ces eaux de pluie. Donc ça va être un très 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 grand débat qui va justifier une politique de restauration forestière. Donc à partir des années 1824 puis 1827, cette monarchie, qui est par ailleurs très conservatrice politiquement, eh bien elle va recréer un outil de gestion des forêts, recréer une école de formation, et pour être sûr qu'on ne fasse vraiment pas n'importe quoi dans ces forêts, va édicter un nouveau règlement, c'est le Code forestier de 1827, qui existe toujours presque en l'état. Les gens de l'Office national des forêts aujourd'hui utilise grosso modo 80% de ce code forestier de 1827. Donc on a bien eu une prise de conscience et l'application de mesures concrètes qui ont été plutôt positives. On a restauré nos forêts. Si vous comparez une photographie d'une montagne aujourd'hui dans les Alpes, dans les Vosges, avec un tableau ou une carte postale des années 1850-80, les premières cartes postales, vous verrez que la forêt ancienne est complètement dépeuplée d'arbres.
À Paris jusqu'à la Révolution française, près de la moitié des processions religieuses sont vouées à la météo pour demander aussi ciel, la pluie ou le beau temps, ex-voto marin, délibération municipale, armées en campagne, beaucoup de sources témoignent de façon très précise de la météo d'alors.
C'est vrai qu'ils produisaient de l'information météorologique de diverses manières. Les religieux processionnaient, on faisait des processions contre la sécheresse, contre la pluie, et ce sont autant d'indications pour nous, les historiens du climat, qui nous permettent de reconstruire, par exemple, la durée d'une sécheresse en 1694 en repérant les différentes dates de processions religieuses. Autre exemple, c'est un gros exploitant agricole du XVIIe ou XVIIIe siècle qui, tous les jours pratiquement, va indiquer les effets de la météorologie sur l'état de ses récoltes. Et dans le même temps, ce qu'on voit apparaître, c'est cette fois-ci une observation de nature plus technique, voire scientifique. C'est l'apparition de communautés scientifiques qui s'intéressent particulièrement à la chose météorologique. Généralement, ils mènent de front des études météorologiques avec l'astronomie. Les deux sont liés, pratiquement jusqu'au début du XIXe siècle. Les météorologues apparaissent très tardivement, après 1850, et pour des raisons militaires. Le tournant, c'est le naufrage d'une partie de la flotte de Napoléon III et des Anglais pendant la guerre de Crimée, dans les années 1850. Et à ce moment-là, le pouvoir public dit qu'il faut absolument se doter de structures d'observation de la météorologie. Donc souvent, la météorologie, c'est une arme de guerre, il faut le savoir.
Cette période, en tous les cas du petit âge glaciaire, nous enseigne que des phénomènes météorologiques extrêmes ne sont pas systématiquement synonymes de réchauffement climatique.
Disons qu'en l'état actuel des choses, contrairement à ce qu'on affirme souvent dans les médias ou ailleurs, on n'a pas de connexion immédiate, directe, définitive entre ces événements extrêmes, ça nous donne, nous, des catastrophes naturelles, généralement, et le changement climatique. C'est loin d'être évident. Ces événements extrêmes ont toujours été vécus, ça, l'historien est affirmatif. Les submersions du type Xynthia, contrairement à ce qu'on affirmait au lendemain de la catastrophe en février 2010, et les populations tentaient de s'en prémunir en faisant appel à des mesures de bon sens, qui consistaient, par exemple, à ne pas habiter au plus près de la mer. On recréait des zones humides qui servaient de zones tampons entre la mer et le bâti, etc. Des zones humides qui étaient quand même exploitées, qui avaient une vocation économique affirmée. C'était un exemple parmi d'autres. On a beaucoup parlé du désastre des Alpes-Maritimes il y a peu de temps. Il faut savoir que les archives sur le même secteur, Mandelieu-la-Lapoule, montrent très bien que jusqu'aux années 1930-40, on veillait à bâtir et à exploiter ce territoire de manière très extensive et que le basculement s'est opéré après la Deuxième Guerre mondiale du fait de la spéculation immobilière et des intérêts financiers. Ce qui a apporté effectivement une croissance. La population a explosé. Reste à savoir si aujourd'hui le coût des catastrophes qui se répètent ne seront pas plus importants que les bénéfices faits depuis 20 ans en termes de construction immobilière. Et sachant aussi qu'on fait totalement l'impasse, c'est un petit peu cynique, sur les pertes humaines. 20 morts pour un pays riche comme la France, c'est pas négligeable.
Le petit âge glaciaire, une période pleine d'enseignements pour aujourd'hui sur les conséquences parfois d'un phénomène météorologique. Lors du grand hiver de 1709, les gens ne mouraient pas de froid auquel ils parvenaient à résister, mais ensuite de faim. Quant à la ville de Paris, elle créera par exemple le métier de plongeur de puits pour y vérifier le niveau de l'eau disponible.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.